Culture Sport, le lundi soir sur Attitude, dès 19h. Les résultats complets du week-end en région, présentés par Christian.
Bonsoir à tous et bienvenue dans le dernier Flash Résultat de l'année 2022. On va revenir sur les résultats du week-end, forcément des résultats assez peu nombreux, puisque la trêve hivernale a sifflé pour pas mal de sports. On va quand même parler de football, de rugby et un peu de handball dans ce Flash Résultat. On va commencer par le football et l'ACFC qui recevait Romorantin pour son dernier match de l'année 2022. Un match important pour les Angoumoisins qui restaient sur un succès contre Bourges 1-0. L'optique c'était de faire la passe de 2 en gagnant contre Romorantin, ce qui n'avait pas été fait sur le début de saison. Et puis une victoire aurait permis aux hommes de David Gigel de conclure la phase aller, enfin presque la phase aller, puisqu'il restera encore un match à disputer à Trélissac dans la première partie de tableau. On va voir qu'Angoulême a rapidement ouvert le score au bout de 13 minutes de jeu sur une ouverture de Léo Fichten sur Alex Mourabit. Le gardien de Romorantin sort aux fraises, on peut le dire. Alexandre Mourabit centre en retrait pour Bekwe qui marque dans le but vide, 1-0 pour la CFC. En deuxième mi-temps, tournant du match avec un penalty provoqué par Geoffrey Lobo, Léo Fichten s'élance mais c'est Johan Gidonou, le gardien romorantiné, qui arrête le penalty. Dans la foulée, Ntamak, le meilleur buteur de la poule, trouve le poteau du Nou, et quelques instants plus tard, Jean-Baptiste Gérard, seul face au portier angoumoisin, ne peut cadrer. Donc victoire 1-0, la CFC s'est fait peur mais la CFC l'emporte, c'est l'essentiel. Je vais donner les résultats de la poule avec donc Lorient qui bat Andrézieux 3-0, Bergerac-Moulins 1 partout, donc Angoulême qui bat Romorantin 1-0, Angers qui bat Trélissac 2-0, Saumur qui gagne au Stade Bordelais, Chamalières qui gagne aux Herbiers, et enfin Gol FC qui gagne à Vierzon. Au classement, Gol FC est champion d'automne, 29 points en 14 matchs. Deuxième, les Herbiers, 24 points. Troisième, Saumur, 23 points. Quatrième, Bergerac, 22 points. Cinquième, Lorient, 21 points. Et la CFC est sixième avec 20 points, soit 6 points d'avance sur la zone rouge. Donc c'est vraiment une très belle fin d'année pour la CFC qui termine avec donc 8 points pris sur les 4 dernières journées. On retrouvera les Angoumoisins donc maintenant désormais le 14 janvier avec un déplacement à Trélissac, pardon. Et les Bleus recevront à Lebon le 21 janvier, donc le week-end d'après. Ils recevront Chamalières, une équipe de Chamalières qui elle aussi termine plutôt bien l'année. Donc on verra ce que ça donnera. En Régional 1, Cognac jouait à Lormont. Cognac fait un partout. Ils avaient voir le score, mais ils se sont fait rattraper un peu avant la mi-temps. Donc dans cette poule de R1, Cognac est 10e avec 11 points. Et la réserve de la CFC, qui elle n'a pas joué ce week-end, est 9e avec 12 points. En Régional 2, quelques matchs en retard également. La défaite malheureusement de Merpin à Fontaine-le-Comte 2-0. Et le match nul de Sireuil à Sainte, 1 partout. Donc Merpin malheureusement terminera l'année relégable, tandis que Sireuil est 3e avec 17 points. En Régional 3, en poule F, La Roche-Rivière et Verneuil-sur-Vienne font 0-0. Soyaux s'incline malheureusement à Périgord-Centre 2-0. Au classement, donc Saint-Alex est fini la saison en tête de cette poule avec 27 points. Pour les équipes qui ont joué ce week-end, Soyaux est 5e avec 16 points. Et La Roche-Rivière est 11e avec 7 points. Enfin, en poule G, l'Alliance 3B bat Jonzac Saint-Germain 3-0. L'Alliance 3B est premier avec 28 points, soit 8 points d'avance sur le deuxième, Rive Droite 33. On va parler rapidement de district avec également deux matchs en retard en D2, en poule A, avec la victoire de Bel Air 3-2 du côté de La Roche-Rivière et la victoire de Sireuil contre Aigre 5-2 dans cette poule A. D'ailleurs, Sireuil est en tête avec 26 points, 7 points d'avance sur Mornac qui devait jouer contre Charente-Limousine, mais le match n'a pas pu se tenir à cause d'un terrain trop gelé. On va rappeler la victoire, la défaite malheureusement du SA15 du côté de Montauban, 25-19. Donc une défaite lourde de conséquences pour le SA15 qui bascule malheureusement dans la zone de relégation. On va rappeler également que l'UCS, donc le Cognac, le rugby de Cognac et de Saint-Jean-d'Angély a déclaré forfait avant son déplacement à Valence-Romans en national. Et enfin en Fédéral 1, on va rappeler la lourde défaite de l'UBJ à Gujan face à Gujan-Mestras, large victoire de l'UBJ contre Gujan-Mestras, victoire 53-10, ce qui fait que l'UBJ termine l'année en beauté. Enfin en handball, et ce sera ma dernière info de l'année, la CH malheureusement se déplaçait à Pessac et la CH s'est inclinée 33-19. La CH reste quatrième au classement, hein, les Girondines étaient deuxième au classement, donc c'était un déplacement assez compliqué. Voilà, on se quitte là pour 2022. On va retrouver tout de suite Culture Sport avec William Boucard, le président de la JSA Triathlon. Et nous, on se retrouve l'année prochaine, en 2023, pour de nouveaux Flash Résultats. Bonne soirée, au revoir.
Culture Sport, tout le sport en Charente, tous les lundis soirs, 19h.
Hello, hello, bonjour à tous. Vous êtes bien sûr Attitude 98.3, 90.7, www.attitudefm.com. Vous êtes avec nous pour suivre en direct votre émission des sports. Chaque lundi, c'est Culture Sport. Chaque lundi, donc 19h, 20h30, on accueille des sportifs. On en parle avec eux pendant 45 minutes, une heure. Et on fait un focus sur le club. Voilà. Donc, nous accueillons aujourd'hui William Boucard, président de la JSA Triathlon. William, bonjour.
Oui, bonsoir.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, tu es un habitué de nos rencontres et c'est toujours un vrai plaisir que de discuter avec toi. Donc, ce que je te suggère, William, c'est dans un premier temps, peut-être, faire un bref retour sur la saison passée et ensuite, je te laisserai la parole pour que tu nous dises quels sont les points que tu souhaites aborder avec nous.
Bonsoir à tous. Donc, dans un premier temps, je peux peut-être rappeler ce qu'est le triathlon, pour parler un petit peu du sport.
Tout à fait.
Hein, donc le triathlon c'est un enchaînement de trois sports, de trois disciplines. D'abord la natation. Donc on nage en eau vive la plupart du temps, donc soit dans un lac, soit dans un fleuve, une rivière comme la Charente, ou alors en mer. Donc on nage sur des distances qui vont pour les petites distances de 300 mètres à 3,8 km pour la distance XXL. Ensuite, donc après la natation, on va prendre le vélo. Donc on le stocke auparavant dans un endroit qu'on appelle le parc à vélo, où on va mettre ses petites affaires, notamment son vélo et puis ses chaussures, son casque. Donc quand on a fini la natation, et ben on va chercher ses affaires, on prend son vélo et puis on va parcourir un circuit cycliste sur des distances de 10 km pour la plus petite des distances jusqu'à 180 km pour la distance XXL, la distance Ironman. Donc on fait ce parcours vélo et ensuite on va courir. On revient au parc à vélo, donc normalement au même endroit, la plupart du temps au même endroit. On repose son vélo et on repart pour un parcours de course à pied. Et là aussi sur une distance qui va de 2,5 km jusqu'à le marathon pour la distance encore une fois XXL dite Ironman, labellisée Ironman. Donc voilà le triathlon c'est un sport complet, hein, un sport d'enchaînement de disciplines. C'est un sport qui est olympique depuis 2000, depuis les Jeux olympiques de Sydney. Et en France, on a vraiment des performeurs en France, puisqu'on a Vincent Luis, par exemple, qui
est champion du monde, c'est ça?
Voilà, qui était champion du monde, qui gagne beaucoup de courses, et là, qui va faire les Jeux Olympiques en 2024. Et puis d'autres, hein, il y a les Aubergères aussi, il y en a des tas. Voilà, il y a des Françaises aussi. On a vraiment en France des noms dans le triathlon mondial, je dirais.
Voilà. William, il y a aussi une limite à ne pas franchir. Moi, j'ai vu l'autre jour, il y a un athlète qui a été disqualifié. Parce que quand on pose le vélo et qu'on sort du parc à vélo, je crois qu'il y a une ligne à ne pas franchir, non?
Alors oui, de toute façon, dans le triathlon, comme dans tous les sports, il y a des règles. Donc la partie natation, on n'a pas le droit, par exemple, de nager avec des palmes, nager avec des plaquettes, nager avec des accessoires qui pourraient nous aider à nager. On a le droit à la combinaison quand l'eau est froide. Hein, faut savoir qu'on les triathlons, on peut se autoriser à partir de 12 degrés. En dessous de 12 degrés, on annule. Et au-dessus 21 degrés, la combinaison est interdite. Mais on a une combinaison néoprène pour nous aider à nager. En vélo, on a ce qu'on appelle le drafting. Donc sur certaines courses, le drafting est autorisé, notamment les Jeux Olympiques. Aux Jeux Olympiques, le drafting, c'est-à-dire qu'on a le droit de rouler en peloton. On a le droit de prendre l'aspiration comme dans une course cycliste. Donc là, il peut y avoir une stratégie de course par rapport aux équipes sur certaines courses. Mais aussi, on a beaucoup de courses, notamment les courses labellisées Ironman, où le drafting est interdit. C'est-à-dire qu'il faut avoir 12 mètres entre le vélo qui vous précède. Vous n'avez pas le droit de prendre l'aspiration parce que c'est un sport individuel. Donc, pour faire respecter ces règles-là, ben, il y a des arbitres qui sont sur moto et qui surveillent les concurrents et qui mettent des cartons, un peu comme au foot, hein, les cartons bleus, cartons jaunes, cartons noirs. Carton bleu, c'est remise en conformité, c'est-à-dire qu'on, attention, on est en train de dériver par rapport au drafting. Carton jaune, c'est un avertissement. Donc là, on aura une boucle de pénalité à pied à faire à la fin du vélo. Et puis, carton noir, c'est disqualification. On respecte pas les règles et donc on se fait exclure. Alors, pour revenir à ce que vous disiez sur les lignes, avant, pour monter sur le vélo, quand on sort du parc à vélo, pour monter sur le vélo, on doit franchir une ligne qui est matérialisée au sol, hein, c'est un coup de peinture, et on franchit cette ligne et ensuite on peut monter sur le vélo uniquement. Mmh. On monte pas sur le vélo dans le parc à vélo. Et pareil pour le retour, quand on arrive de la partie cycliste, on ne franchit pas la ligne du retour, c'est-à-dire qu'on a une ligne qui est tracée au club sur la route, qui est surveillée par des arbitres. Et qui dit, bah, il faut descendre du vélo avant de franchir cette ligne et ensuite aller dans le parc. Pareil pour le casque. Le casque, on n'enlève pas le casque avant d'être arrivé à son poste et d'avoir posé son vélo à l'endroit où on doit le poser. Voilà. Et tout un tas de règles comme ça à respecter.
Et sauf erreur de ma part, et d'avoir mis son casque dans le petit bac qui est prévu à cet effet, c'est ça?
Oui, tout à fait. Le casque, on doit l'enlever. Une fois qu'on a posé le vélo, enlever la jugulaire, enlever le casque, et on doit le mettre dans le bac. Alors, s'il y a un bac, parce que ça, effectivement, dans les épreuves élites ou dans des épreuves de grande envergure, ils ont des bacs, ils ont pour ranger les affaires. Mais sur d'autres épreuves beaucoup plus rurales, on n'a pas de bac. On met notre casque sur notre vélo. L'important, c'est de circuler dans le parc à vélo avec un casque sur la tête. C'est ça qui est important. Et aussi le dossard. On a aussi dans nos courses, on a notre dossard à mettre. On a ce qu'on appelle un porte-dossard pour qu'on puisse mettre le dossard derrière quand on est en vélo et le dossard devant quand on est en course à pied.
William, quels ont été des pays dans le monde précurseurs du triathlon? Est-ce que la France a rejoint le paquet un petit peu après, ou il y avait déjà des pays, des nations qui avaient institutionnalisé, c'est dur à dire, le triathlon?
Alors, le triathlon, il est né en partie avec l'Ironman d'Hawaï. Hein. C'est à l'époque les militaires qui étaient basés à Hawaï. Comme ils s'ennuyaient, ils se sont dit, tiens, on va faire un peu de sport. Et puis, ils se sont lancés un défi à nager 3,8 km dans la baie de Hawaï, parcourir un circuit vélo de 180 km et courir un marathon. Bon, c'était leur passe-temps. Et puis de là, on a découlé les Ironman. Mais ensuite, le sport s'est démocratisé, est venu en Europe. Et puis, on a commencé c'est un sport qui s'est développé. Et puis, en France, on a beaucoup développé, on a beaucoup aidé, là, le triathlon français a aidé à développer le triathlon mondial. D'ailleurs, les ligues, les premières divisions, les courses qui se courent en première division, c'est en France. Les meilleurs athlètes sont en France. Les meilleurs athlètes mondiaux courent à un moment donné sur des divisions nationales en France.
Il n'y a pas beaucoup de clubs, hein.
En France,
il y a Dunkerque, il y en a 5 ou 6 en D1.
Ah, en D1, je crois il y a.
Je vois moi.
Il y a 15 équipes. Il y a 15 équipes en 15 division 1. Ouais, à peu près. Il y a une quinzaine en division 2. D'accord. Et puis en 3, en division 3. C'est à mon avis pareil. Il y a une dizaine de division 3. Et puis il y a ce jeu de montée et de descente, hein, en fonction des courses. Un petit peu comme le foot, où sur toutes les épreuves du circuit, là, en France par exemple, il y a 5 courses de mémoire, et en fonction du classement des équipes et des individualités, vous cumulez des points, et puis ces points, à la fin de l'année, vous donnent le titre de champion de France, ou vous font rétrograder en deuxième division parce que vous n'avez pas marqué assez de points, et ainsi de suite. Exactement comme le foot, hein, division 1, division 2, division 3, vous avez ce jeu de montée et de descente.
La GSA, elle est dans quelle division? Voilà,
alors la GSA, la GSA, on est en division 3, c'est-à-dire qu'on est, l'année dernière, par exemple, pour le triathlon d'Angoulême, on a mis en place une équipe pour participer à ce championnat de France division 3. Donc à Angoulême, c'était le sélectif division 3. Donc on s'est qualifié à Angoulême pour faire la demi-finale qui était organisée à Bordeaux au mois de juillet. Et puis là on n'a pas passé la demi-finale. On est resté en demi-finale. Donc il fallait encore passer la demi-finale pour aller en finale division 3. Et en finale division 3, il fallait être dans les trois premiers pour pouvoir monter en division 2. Donc autrement dit, il y a quand même une marche.
Comment on sélectionne l'effectif ?
Là cette année, on va encore une fois positionner une équipe féminine et j'espère une équipe féminine, pas une équipe masculine, une équipe féminine, pardon, deux équipes. On sélectionne les athlètes, on propose aux athlètes du club de participer à l'équipe division 3, à participer au sélectif. Donc on les sélectionne en fonction de leur performance, hein. Les athlètes, on les connaît tous. Nous au club, on est une centaine, donc on les connaît tous. On sait, il y a les plus jeunes, mais il y a aussi les plus vieux, hein, qui sont très performants. Donc on les sélectionne et puis on essaye de monter comme ça des équipes. Pour représenter le club, pour avoir une petite équipe compétition, c'est quand même sympa.
On peut peut-être les présenter, William.
Alors cette année en division 3, l'équipe qui a participé à la demi-finale à Bordeaux, donc il y avait Thomas Marin qui était notre capitaine de cette équipe. Il y a eu Brice Mounier, il y a eu aussi Pierre Fontaine. Il y a eu Guillaume Chapeau qui a participé aussi, je crois qu'ils étaient quatre. Et puis on a inscrit aussi Clément Mignon, mais bon, il a pas pu, son emploi du temps a pas pu lui permettre de venir. Il nous aurait bien aidé pour cette course là mais bon, il avait d'autres priorités dans son planning, donc bon, on lui en veut pas du tout, hein.
Quelle est ta plus grande satisfaction depuis que tu as pris les commandes?
Ma plus grande satisfaction, il n'y en a pas vraiment. Ma satisfaction en tant que président aujourd'hui, c'est de voir un club qui vit. Aujourd'hui, on est une centaine de licenciés. On a des bénévoles qui encadrent les séances et qui sont toujours là et qui font le job. Donc ça, c'est très enrichissant. On a des jeunes encore à l'école de triathlon, même si on n'appelle plus école de triathlon. Mais on a quand même une bonne dizaine de jeunes qui viennent aux entraînements, à la piscine, à la course à pied, à la natation. Donc moi, ma satisfaction, elle est là, c'est de continuer à faire en sorte que le club vive, qu'on ait une partie compétition avec et représenter le club sur un niveau national, en tout cas là, bon, ce côté-là de la division 3. Après, le bonus de l'année dernière, c'est l'arrivée de Clément au club. Donc là, pour l'ensemble des membres du club, ça a été une belle surprise et on l'a suivi. Il nous a fait rêver toute l'année. Donc c'était pour le club, pour moi comme pour les membres du club, c'était très enrichissant.
Comment vous vous organisez? Parce que je suppose qu'il y a une partie de la saison où bon, il y a les vacances peut-être. Comment vous planifiez ces horaires pour les entraînements? Parce que je suppose que quand il y a 10 km à pied ou 3 km 600 ou 800 de natation, comment vous pouvez vous organiser?
Alors, le triathlon, c'est quand même un sport individuel. Donc, la plupart du temps, le triathlète s'entraîne seul. Il va à la piscine quand il a le temps, entre midi et deux. En fonction d'eux, il va courir le soir, il va faire du vélo le week-end et la semaine. Chacun, finalement, s'entraîne un petit peu comme on veut. C'est pas comme un sport collectif où, effectivement, pour jouer au foot, il y a des horaires qui sont aménagés, où il faut un terrain, il faut des partenaires pour pouvoir jouer. Le triathlon, les trois disciplines du triathlon peuvent se pratiquer seul, en autonomie. Après, au-delà de ça, nous, dans le club, on est organisé de la façon suivante. On a des séances piscine, donc des créneaux qui nous sont réservés pour nous, pour le club. À Nautilis, on a à peu près pratiquement une séance par jour, en général le soir, pour les lundis et les jeudis, mais on a à peu près une séance par jour, donc pour la partie natation, avec des bénévoles qui nous encadrent et qui nous surveillent, hein, qui ont les diplômes pour pouvoir encadrer et intervenir en cas de pépin dans la partie natation. Donc ça, c'est très important. De toute façon, Nautilis ne nous laisserait pas rentrer si on n'avait pas des bénévoles qui aient tous les diplômes nécessaires, hein, pour pouvoir les encadrer. Parce que c'est sous notre surveillance. On a des créneaux piscine, mais on ne fait pas appel aux maîtres nageurs de Nautilis. C'est nos maîtres nageurs qui encadrent les séances. Donc ça, c'est vraiment un point important. Et donc, je remercie nos surveillants, parce que c'est sans eux, on ne pourrait pas faire grand-chose. Donc on a la piscine pour la partie cyclisme. Donc on fait des séances le samedi et le dimanche, samedi matin et dimanche matin. On a deux départs avec plusieurs niveaux, en général un, deux, trois niveaux, les confirmés, les débutants et puis l'intermédiaire. où on part là aussi de Nautilus, où on part de Saint-Cybar, Place Mulhac, et puis on va parcourir les routes charentaises. Donc voilà pour la partie cyclisme, avec une sortie pour les enfants aussi le samedi matin, dans lequel je participe et on encadre les enfants le samedi matin, avec aussi Thomas Marin qui s'occupe des jeunes performants, hein, qu'on veut essayer d'aiguiller vers
excuse-moi William, je te coupe quelques secondes pour savoir à quel âge par exemple on peut aller justement s'inscrire à la GSA.
Alors nous, les enfants, on les prend à partir de 10-12 ans, en fonction du niveau.
D'accord.
On n'a pas aujourd'hui, on n'a plus l'école de triathlon labellisée, c'est-à-dire avec des étoiles. On est sorti de ça parce qu'on se rendait compte que pour avoir une école labellisée, il nous faut des professionnels du triathlon, c'est-à-dire des jeunes ou des personnes qui ont des diplômes d'entraînement et qui soient capables d'encadrer aussi des enfants, des jeunes. Nous aujourd'hui c'est plus le cas, on est que des bénévoles et encadrer des enfants qui ont à partir de 6 ans, c'est un métier, ça s'apprend, c'est pas fait pour tout le monde. Donc on a préféré aller vers voilà des enfants qui ont entre 10 et 12 ans, ils peuvent venir à la piscine et ils viennent à la sortie du vélo le samedi et à la sortie de course à pied aussi le mercredi soir.
Voilà, excuse-moi de t'avoir coupé. On était justement sur les jeunes le samedi matin.
Ouais, samedi matin, donc on a la sortie vélo le samedi matin et ensuite là on a une séance course à pied qui se passe au stade de ma campagne pour un créneau pour les adultes et un créneau aussi pour les enfants qui sont animés aussi par deux encadrants bénévoles, Frédéric Durand pour pas le nommer, qui est encore un grand nom du triathlon, même si ça en écarte un peu, il est en train de basculer sur le trail long, mais c'est une pointure du triathlon. Et puis Christophe Touron aussi qui encadre à la perfection les adultes, puisque maintenant ils sont une bonne vingtaine à chaque fois à aller aux entraînements et tout le monde y prend plaisir à se retrouver et à courir ensemble. Donc j'en profite aussi pour les remercier parce que sans eux on ferait pas grand chose et leurs entraînements sont vraiment bien reçus et les gens sont contents d'aller aux entraînements. C'est bien.
William, parmi les 100 licenciés qu'il y a au club, quelle est la proportion, le ratio entre femmes et hommes ?
Alors le ratio entre femmes et hommes, on a à peu près 20% de femmes en fait sur les centaines de licenciés. Et puis on a, c'est 10% d'enfants.
Donc c'est le ratio de 20% pour les femmes, c'est satisfaisant ou pas, ou on peut faire mieux ?
On peut faire mieux. Moi, j'ai pas d'objectif par rapport à ça. Nous, tout le monde est acquis. Cette année, il y a plus de femmes. On fera les comptes l'année prochaine. Mais cette année, il y a quand même pas mal de nouvelles têtes. Je pense qu'il y aura plus de femmes cette année. Mais encore une fois, le club, il est ouvert à tout le monde. On pratique du sport. On fait du sport. C'est mixte. Donc, il y a pas de souci. Les entraînements de course à pied le mercredi soir, c'est hommes et femmes. Il y a pas de distinguo. Après, chacun son niveau, mais c'est pas souci.
On voit au niveau international des compétitions où il y a des relais hommes-femmes. Est-ce que c'est quelque chose qui intéresse le club ou pas ?
Alors c'est quelque chose qui pourrait intéresser le club dans une phase d'organisation, notamment au triathlon d'Angoulême l'année prochaine. On pourrait s'orienter vers ce format de course parce que c'est un format de course. Donc ça devient olympique, je crois. C'est le relais mixte parce que en fait pour les Olympiades, il y avait jusqu'à présent que la distance olympique, c'est-à-dire 1500 mètres de natation, 40 km de vélo avec drafting et 10 km à pied. Ça, c'était la distance olympique. Est venu s'ajouter là au dernier Jeux Olympiques le relais mixte avec, un mini triathlon à faire par quatre athlètes et notamment deux hommes et deux femmes.
Avec une belle, des beaux résultats pour les équipes de France, non ?
Ah bien sûr, oui, non, mais on performe complètement sur ces distances-là. Oui, on verra aux prochains Jeux Olympiques à Paris, mais je pense qu'on est très performant.
Lui, c'est Beaugrand, c'est les têtes de gondole du triathlon.
Je les connais pas personnellement. Vous savez, j'ai déjà beaucoup à faire à s'occuper de mon club. Bon, les élites françaises, je les connais pas plus que ça. Je les connais, mais c'est les fers de lance du triathlon, notamment avec Vincent Louis, Léo Bergère et consorts.
Qu'est-ce que ça apporte le trail par rapport au triathlon ?
Alors le trail pour nous triathlètes, c'est ce qu'on fait l'hiver plus. L'hiver, il n'y a pas de triathlon parce que la saison de triathlon commence début mai et puis se termine, on va dire fin octobre. et encore pour des triathlons dans le sud. Donc l'hiver, on n'a pas de compétition proprement dit dans le triathlon. Donc on s'oriente sur des courses, vers les courses sur route, par exemple, notamment du marathon, du semi-marathon et puis du trail. Et le trail, c'est intéressant parce que c'est de la course nature déjà, donc faut aimer ça. Et puis ça sollicite aussi un peu moins les articulations. Tout dépend du dénivelé, hein. Mais ça change. Ça change de la course sur le triathlon. C'est complémentaire.
J'ai regardé votre site qui est très bien fait, qui est très, très didactique et très convivial. Il est question du duathlon. Est-ce que tu peux nous en parler, William?
Le duathlon, c'est aussi un sport enchaîné. C'est comme le triathlon, sauf qu'il n'y a pas la partie natation. On remplace la partie natation par de la course à pied. Donc, on fait pour les distances sprint, je crois, c'est 5 km de course à pied. Le départ est donné sur 5 km de course à pied, le départ en mass start. Ensuite, on enchaîne avec 20 km de vélo, 30, je sais plus exactement. Mm-hmm. Et puis, on finit par une deuxième phase course à pied, en général 2,5 km de course à pied, ou 5. Okay. Mais en principe, le duathlon, c'est ça.
Il y en avait en Charente. Il y en a plus de ça, du duathlon. Je crois que le dernier qui a eu lieu, c'était à Puy-Moyen.
Il n'y a plus moyen, mais c'était il y a longtemps. Mais en Charente, il y a le duathlon de la Rochebeaucourt qui avait lieu.
Ah, d'accord.
Qui était un très beau duathlon. Je ne sais pas s'il a encore lieu cette année. Je ne peux pas regarder le calendrier, mais il y avait la Rochebeaucourt. Ouais. Et il y a aussi, il y a un duathlon qui se fait par nos confrères de Villefagnan.
Oui,
ils font un beau triathlon au mois de septembre, au mois de juin, pardon, et un duathlon en février-mars. L'année dernière, ils avaient rencontré un beau succès au duathlon de Villefagnan. C'était une belle épreuve, c'était une première.
Vous organisez également depuis de nombreuses années le triathlon de Sireuil. On peut en parler un petit peu, ce triathlon.
Alors le triathlon de Sireuil, on n'est pas le club d'Angoulême, on n'est pas organisateur, on est co-organisateur avec l'association de Sireuil, l'association du triathlon du pont de Sireuil. On est co-organisateur dans le sens où on leur apporte un peu de support technique sur leur demande en fonction de leurs besoins. Ils posent des questions sur des choses d'ordre technique. On essaie de leur apporter des réponses et puis on leur donne un petit coup de main aussi en tant que bénévole, où là cette année on était une dizaine à occuper le poste pour la remise des dossards. Donc voilà, on leur donne un coup de main parce que c'est proche, et puis le triathlon de Sireuil c'est historiquement c'est une institution, donc tout le monde est content d'aller à Sireuil. Et puis nous, encore une fois, ce qui importe, c'est de participer au triathlon de Sireuil. Donc la plupart des triathlètes du club vont participer.
Vous écoutez Attitude 98.3 90.7. Bienvenue sur Culture Sport, votre émission des sports, chaque lundi 19h-20h30. Nous retrouvons aujourd'hui William Boucard, donc président de la JSA Triathlon, qui répond aux questions de Dédé et de Didier. Dédé, c'est à toi.
Moi, je pense aussi à tous ceux qui tracent le circuit, tous les bénévoles qui sont, il faut qu'ils soient disponibles, je crois, sur toute la journée. C'est une sacrée organisation. On peut en parler un petit peu, William, pour les auditeurs.
Bien sûr, et puis il faut surtout leur rendre hommage, parce que sans bénévoles, on n'a pas de course. Moi, c'est ce que je dis souvent, hein, on aime aller faire des courses partout en région ou en France, mais si on n'a pas de bénévoles, il faut les remercier, les courses peuvent pas exister. Là, notamment, à Sireuil, ils sont une bonne centaine de bénévoles, voire même plus, parce que le circuit vélo est relativement long. Donc ça va très vite. Nous, à Angoulême, par exemple, l'année dernière, on était 70 bénévoles. Donc c'était 70 bénévoles, la plupart du club, mais c'est les membres du club, c'est Marie, la femme, ou c'est la grand-mère, ou c'est l'oncle, ou c'est... Vous voyez, on essaye de rayonner un petit peu pour trouver des bénévoles, parce que à chaque fois, c'est quand même une épée de Damoclès, parce que quand on est à 15 jours de l'épreuve et qu'il nous manque encore 10 bénévoles pour assurer le circuit vélo, on se gratte la tête, hein, parce que là, c'est pas possible. On n'a pas le droit à l'erreur sur le circuit vélo, par exemple. Il y a de la sécurité à avoir sur l'eau, avec des bénévoles aussi qui vont surveiller la course dans l'eau, hein, pour la sécurité. On a des bénévoles donc pour la partie vélo, pour stopper les voitures sur le circuit. Il faut des bénévoles pour les ravitaux, il faut des bénévoles pour les dossards, il faut des bénévoles pour tout. Donc ça nécessite du travail et du temps à consacrer pour les organisations, et ça vraiment il faut en avoir conscience. Je pense que tous les triathlètes en ont conscience, et à chaque fois on en parle. On remercie à chaque fois les bénévoles, parce que c'est important. Et ça dans toutes les courses, hein, que ce soit les toutes petites courses ici en Charente ou ailleurs, et comme les grandes courses, hein, les Ironman. Moi, j'ai fait l'Ironman par exemple du Portugal. Il y a peut-être 600 bénévoles pour assurer la sécurité des ravitaux. Et il y a beaucoup d'étudiants, des gens de la ville qui participent à ça, parce que c'est vraiment une épreuve phare. Vous voyez, le triathlon de Royan, ils sont 400 bénévoles pour 800 participants. Un bénévole pour deux.
On peut parler aussi des athlètes, enfin ceux qui sont peut-être dans quelques années, qui peuvent côtoyer le haut niveau.
Alors nous au club, on essaye de fédérer justement des jeunes à potentiel. Là, je peux vous parler de Jules Durand, le fils de Frédéric Durand, qui est vraiment très motivé pour performer dans les années à venir. Il a juste 16 ans, il est en première, donc c'est un jeune qui est très motivé. Il nage avec la NC, il fait du vélo notamment avec Thomas Marin qui lui donne de très bons conseils, et puis son père aussi le pilote par rapport à la course à pied. Donc il entre vraiment dans de bonnes mains pour performer. Et puis après, d'autres vont venir. On a aussi l'avenue de Maxence Colombier, qui est à la G2A, qui est un très grand coureur, un coureur à pied, donc excellent duathlète, un peu moins triathlète parce qu'il c'est pas un nageur. Donc on va essayer aussi de faire une équipe pour du duathlon, justement en division 3 à Périgueux. On a de nouveaux athlètes, mais c'est aussi grâce à l'arrivée de Clément l'année dernière qui a créé les mules auprès des jeunes. Et je pense que c'est pas fini, parce que ça en amène d'autres.
On peut parler des résultats obtenus par Clément, par Marin.
Alors moi j'ai noté effectivement, moi je voulais évoquer Clément, et puis parler aussi de Sébastien Sudry, oui. Donc qui sont nos champions au club cette année. Donc je vais commencer par Sébastien Sudry. Je vais faire honneur aux anciens, puisque Sébastien il a quand même 52 ans. faut quand même le souligner, c'est qu'il est très il perdure quand même dans l'âge avec ses performances. Donc Sébastien, il a été champion d'Europe en aquathlon. Donc l'aquathlon, c'est uniquement de la natation enchaînée avec de la course à pied. Il a été champion d'Europe en 2014, 2018 et 2021. Et là, cette année, en 2022, il est troisième en Slovaquie. C'était à la fin d'été à Samora. Il a été deuxième en 2021 au championnat du monde d'aquathlon, toujours. Donc ça, c'était pour cette année. Donc il a été troisième en 2022, Slovaquie. Mais il fait aussi de la nage en eau libre, Sébastien. Donc là, c'est que de la natation, mais c'est de la nage en eau libre, donc en lac ou en rivière ou en mer. Il a été double champion d'Europe en eau libre du 5 km et du 2 km en Croatie. Et voilà. Et donc là, en 2023, il s'est qualifié pour les championnats d'Europe aquathlon à Ibiza et championnat du monde aquathlon en Belgique. Et en eau libre, il s'est qualifié aussi pour les mondes en Thaïlande le 15 janvier. C'est le 15 janvier 2023, donc championnat du monde eau libre. Et puis aussi, il veut participer au championnat du monde ice swimming. Ça, c'est des disciplines qui arrivent un petit peu. C'est nager dans une eau qui est comprise entre 0 et 3 degrés. Je vous laisse imaginer. Donc il se lance de nouveaux défis. Bah Sébastien, c'est un homme de défis, il aime bien ça. Oui. En plus de l'aquathlon, du triathlon et de l'eau libre, se lancer de nouveaux défis comme du Spartan Race, des courses à obstacles, des choses comme ça, il aime bien sur le truc.
Ouais, c'est en quelque sorte un aventurier. C'est quelqu'un qui est très
c'est un sportif avant tout. Oui. Et puis c'est quelqu'un qui aime ça, qui aime bouger et découvrir de nouvelles choses. Enfin, à 52 ans, il est vraiment très performant, et puis il perdure dans la durée. Donc c'est bien. C'est une bonne saison 2023, une nouvelle saison 2023.
Il avait commencé par quel sport, William ?
Le triathlon, il a fait, je crois que c'était en 1989, il a fait 15e au championnat du monde de triathlon en junior. Et donc, il avait commencé par le triathlon pendant quelques années. Il était au triathlon, bah, comme son frère Sylvain Sudré est devenu champion du monde aussi. Hein, c'était aussi un triathlète. Il a perduré dans le triathlon. Sébastien s'est orienté plus vers l'aquathlon, je pense, pour des raisons professionnelles et de famille. Quand vous avez des enfants et que le travail vous prend quand même plus de temps, bah, vous changez d'orientation. Donc, vous pouvez bien pas. Le vélo prend beaucoup de temps à l'entraînement. Donc, bah, vous avez des choix à faire.
Pour performer en triathlon, William, quelle est la discipline qui demande le plus d'efforts et de talents?
Ah, pour performer en triathlon, de toute façon, il faut être polyvalent, hein, il faut être bon dans les trois disciplines.
Hein, est-ce que la natation, c'est pas forcément la discipline sur laquelle on peut performer et sur laquelle il faut s'entraîner beaucoup?
Alors, la natation, donc la première épreuve, c'est-à-dire que sur un triathlon, le triathlon se gagne pas avec la partie natation, mais peut se perdre.
Voilà.
Si on est mauvais nageur, effectivement, ça va être compliqué de revenir sur la tête de course. Donc, il faut être quand même polyvalent. Il faut être nageur. De toute façon, il faut être nageur. En général, les meilleurs triathlètes mondiaux viennent pour la plupart de la natation. Clément, c'est un nageur à la base. Il a sa formation à l'ANC. C'est vraiment à la base un grand nageur, donc il arrive de là. Donc proportionnellement, là où on passe le plus de temps dans le triathlon, c'est sur le vélo. La partie vélo, c'est là où il y a le plus de temps à concourir. Donc il faut bien nager, mais il faut faire aussi beaucoup de vélo. Il y a énormément de vélo à faire, hein. Quand on regarde les plannings d'entraînement des champions, on se rend compte qu'ils passent énormément de temps sur le vélo. Et puis aussi la course à pied. Donc il faut bien nager, en tout cas pas mal nager. Il faut vraiment bien pédaler pour rester au contact de la tête de course et puis surtout finir la course à pied, parce que la course à pied c'est l'épreuve finalement qui termine le triathlon. Mais quand vous avez fait la natation et fait le vélo, je vous dis, quand vous partez courir, vous avez un peu les jambes sciées. Donc il faut pouvoir enchaîner et puis pouvoir terminer le triathlon le plus vite possible. Donc faut avoir aussi de grandes qualités de coureur.
On a parlé de Clément, de Thomas. Et chez les féminines, quel est l'espoir sur la JSA?
L'espoir sur la JSA, j'aimerais l'année prochaine qu'on ait une équipe qui représente le club en troisième division, comme les garçons. Donc ça serait intéressant. Aujourd'hui, les espoirs en féminine, c'est compliqué de le dire. On a des jeunes, mais pas des jeunes qui pourraient sortir du lot pour performer dans les années à venir. Donc ça, peut-être qu'il y en aura l'année prochaine. Ça, je peux pas vous dire.
Il y a beaucoup de, généralement, il y a des mutations qui se font lors de l'intersaison, ou c'est purement les gens du département de Charente?
Oui, il y en a quelques-unes tous les ans, hein. Vous savez, les gens sont mobiles de par leur métier. Le triathlon, c'est quand même un sport pas de vieux, mais c'est un sport où en général on y arrive quand on est déjà dans la vie active. Donc il y a des mutations professionnelles et qui font que vous changez de club. Donc nous, par exemple, tous les ans, on a quelques triathlètes qui quittent le club, qui demandent leur mutation vers un autre club.
D'accord.
Parce que ils vont déménager, ils vont changer de vie professionnelle et puis ils changent de ville. Et puis il y en a d'autres qui arrivent, hein. Là, on a un jeune qui arrive de La Rochelle, il a fait sa mutation pour venir au club de La Rochelle pour pouvoir accéder aux séances d'entraînement avec nous. Et puis puis des étudiants aussi, il y a des étudiants, là on avait une jeune étudiante qui part continuer ses études du côté de Tarbes et qui a demandé sa mutation pour aller à Tarbes. Donc voilà, tous les ans en fait, il y a ce système de mutation entre clubs. Parce que notre club, de toute façon, les clubs sont affiliés, on est affilié Fédération Française de Triathlon. Donc, il y a toute une synergie qui s'opère entre les clubs. Donc, voilà.
Vous êtes dans l'obligation de suivre un programme au niveau national?
Alors, suivre un programme, non, mais pour être affilié FFTRI et pour bénéficier des assurances que l'on peut avoir quand on est en fédération, on est affilié à un club et on reverse une partie de la cotisation des membres à la FFTRI et à la Ligue de Triathlon qui est la Nouvelle-Aquitaine pour nous.
Il y a combien de licenciés en Charente?
Il y a trois clubs en Charente. Il y a JSA Angoulême, il y a les Tritons de Cognac et Team Charente. Donc, il y a deux clubs à Cognac. On va dire qu'on est on est 300. On va dire maximum, il y a 300 licenciés en Charente.
Bon.
300 licenciés en Charente, et quand vous voyez que le seul club de La Rochelle, ils sont déjà 300.
Et à Saint, oui, quand même, ouais.
Ouais, donc, en Charente-Maritime, ils sont peut-être peut-être une petite dizaine de clubs en Charente-Maritime. Ça se développe beaucoup. Et notamment avec des gros fers de lance comme La Rochelle. C'est vraiment des gros clubs avec des équipes qui tournent en D1. Là, cette année, les garçons vont être en D1 à La Rochelle. Donc, ils ont vraiment une culture, voilà, des jeunes qui progressent au sein du club. Et c'est des gros clubs. Ils sont 300. Je crois Sainte, c'est pareil. Ils sont 200, 250. Donc, c'est vraiment des grosses écuries.
Mais le trail a peut-être fait mal aussi au triathlon, non? Parce qu'il y a énormément de monde.
Oh non, le trail c'est à part, le trail c'est de la course à pied. Encore une fois c'est complémentaire. Moi j'aime aussi le trail, hein. C'est plus axé l'hiver. Et puis on peut faire un triathlon le dimanche et puis le dimanche suivant faire un trail, hein, en fonction de notre
programme. Oui,
pas affligé uniquement triathlon.
Il y a combien d'épreuves dans la saison, par exemple en N3 ou en D3? Il y a combien de compétitions à effectuer dans la saison, sur bon vouloir, ou alors il y a un planning à respecter?
Non, si on revient sur le championnat, donc en division, là pour la division 3, il y avait le sélectif, la demi-finale et la finale. Donc il y avait trois courses à faire. Je crois que dans le circuit D1, ils ont cinq manches, donc cinq courses à faire dans la saison. La D2, ça doit être pareil. Et puis après, chaque triathlète organise sa saison comme il veut, en fonction de ses disponibilités et de ses envies. Quand vous participez à un triathlon, je sais pas, moi je dis Sireuil, il dit oh, putain super, j'ai fait Sireuil, ben l'année prochaine je veux le refaire ou pas.
D'accord, oui.
Donc tous les ans en fait, en début d'année, on reçoit le calendrier de la FFTRI et on peut choisir comme ça toutes les épreuves que l'on veut faire. Ils sont labellisés Fédération Française de Triathlon, mais pas que, hein. Il y a aussi des courses qui ne sont pas labellisées, hein, qui sont aussi tout possible.
L'objectif donc pour la saison prochaine, c'est d'étoffer un petit peu les adhérents. C'est quoi les objectifs? Et vous avez des... Parce que quand je vous entends, ça demande quand même énormément d'abord d'énergie au niveau du compétiteur, mais également financier, parce que quand on s'en va en Belgique, quand on va en Croatie, qu'on représente un club, c'est un sacré budget quand même.
Ouais, mais c'est nous au club d'Angoulême, on a finalement très peu de subventions pour, ben oui, pour notre fonctionnement. Chaque triathlète finalement paye ses frais de déplacement.
Ben oui.
Le club peut participer un petit peu en fonction des championnats et ainsi de suite, mais on a quand même un budget limité. Donc on reste modeste, pas des grandes ambitions par rapport à ça. On cherche tout le temps du mécénat, hein, bien évidemment, mais aujourd'hui, on n'a pas de membres salariés, on n'a pas de personnes salariées pour encadrer les membres du club. Donc, les cotisations des membres suffit à notre fonctionnement et à participer aux organisations que l'on peut faire et à donner un coup de main en fonction des déplacements. Là, le championnat de France, on a fait le championnat de France longue distance l'année dernière, on a pu participer aux frais de déplacement d'équipe. Mm-hmm. On avait une équipe mixte qui s'est déplacée, on a défrayé forcément les gasoil, le frais d'hébergement. Mm-hmm. Et puis, dès qu'on peut donner un coup de main, on le fait. Voilà. On en parle en bureau et puis on dit ok, on aide ou on n'aide pas. Voilà.
Vous êtes vraiment des bénévoles. Hein. Moi, je suis admiratif. Hein.
Nous, au club, au club, on est 100% bénévole. Alors, on défraie, comme vous disiez, on arrive à défrayer les coups de main. Les encadrants, par exemple, on leur paye la licence.
C'est
le club qui les finance. Mais c'est tout, effectivement. Donc, aujourd'hui, on aimerait, ça serait quand même un bel objectif demain de trouver, de faire un emploi salarié. Mais on pourrait se lancer vers là. Mais aujourd'hui, on n'a pas la bonne personne.
Ben oui.
Il faut trouver, ce qui est important, c'est de trouver la bonne personne. Et puis, qui reste sur le long terme. Et ça, c'est pas évident. Parce que vous savez, le sport, aujourd'hui, hein, le sport, malheureusement, hein, ça paye pas, hein, comme on dit, hein. C'est dommage, c'est vraiment dommage.
Ouais, c'est clair.
William, j'ai regardé dans le site du club, il y a quatre commissions. Est-ce que tu pourrais nous en parler de ces quatre commissions?
Oui, on a structuré le club un petit peu, oui, justement, pour avoir des commissions, pour se répartir un petit peu les tâches. Donc, on a la commission communication où effectivement
la recherche des sponsors,
ouais, les sponsors et puis les réseaux et ainsi de suite, les relations aussi avec la FSTRI par exemple, et puis aussi les tenues du club. Alors cette année on va peut-être changer de tenue, on essaie d'avoir un nouveau partenaire pour les tenues. Donc ça c'est la communication, la commission sportive, donc elle a un rôle important toute l'année. Parce qu'il faut planifier les entraînements, il faut voir qui encadre. C'est Alexis Bonneau qui est le responsable de cette commission sportive. Je le remercie aussi. Et toutes les semaines, il envoie un mail à tous les adhérents, des listes de diffusion pour rappeler les entraînements. Voilà, donc dans cette commission sportive, il y a aussi l'arbitrage, la Détroit, et puis ça peut aussi être sur de la mixité sportive, du sport santé, on sport, tout un tas de choses hein, qui regroupent la commission sportive.
Là, je ne savais pas qu'il y avait un arbitrage.
Oui, ben l'arbitrage, en fait, donc comme je disais tout à l'heure sur les triathlons, il y a les arbitres sont aussi des bénévoles. Ils viennent de tous les clubs partout en France et on a des formations pour pouvoir arbitrer sur les courses. Alors faut savoir que nous au club, on n'a pas d'arbitre et on est sanctionné par la ligue parce que on présente pas d'arbitre sur les courses.
D'accord.
Alors, on l'assume. Hein, nous, on propose, s'il y a des personnes qui sont intéressées par l'arbitrage, on peut financer la formation, on fait du défraiement, on fait des tas de choses pour inciter, on paye la licence, on fait des tas de choses pour inciter à aller vers l'arbitrage. Mais bon, on n'oblige personne, encore une fois. Hein, et puis, la commission administrative et financière, bon, bah ça, c'est tout ce qui est comptable, hein, la gestion des licences. Là, on est en plein dedans, puisque nous, nos licences marchent par année civile. Donc, du 1er janvier au 31 décembre, et pas par année scolaire. Donc là, on est en plein dedans, le renouvellement des licences. Donc là, ça arrive aujourd'hui, on est à 90 licenciés qui ont renouvelé leur licence. Et puis la gestion des comptes, ça c'est tout à fait. Et puis pour finir, la commission organisation, là c'est pour organiser les événements que l'on peut faire, donc le triathlon, mais aussi en janvier, l'année dernière, on avait fait un bacon run galette. C'était bon, on faisait une petite épreuve sportive et puis derrière, on mangeait la galette. Dès qu'on peut faire un événement, et ben, on le fait. Pendant le Covid, on avait organisé un triathlon et un aquathlon en période Covid où tout était fermé et il n'y avait plus le droit de manifestation. On s'était fait des petites manifestations club.
Si j'ai bien compris, il n'y a pas eu d'assemblée générale encore. Vous allez la faire dans quelques semaines ou dans quelques mois.
L'assemblée générale, oui, nous, elle est située aux alentours du mois de mars.
D'accord.
On clôture les comptes là à la fin d'année et puis début mars, juste avant la saison, on fait une assemblée générale.
En tant que président, William, quels sont les grands objectifs, les grandes tendances que tu vas souhaiter être mises en place pour la saison qui vient?
Alors, en tant que président, moi, ce que j'aimerais, c'est que continuer à avoir un club qui est dynamique et où tout le monde y trouve son compte. Et puis j'aimerais qu'on va organiser notre deuxième triathlon à Angoulême le 30 avril. Donc ça, c'est aussi un événement phare au club. Donc le 30 avril, triathlon Angoulême sur les quais de l'Houmeau, où on va être encore une fois championnat régional jeune, sur de la distance de sprint et distance XS. Donc le sprint, c'est 750 mètres de natation, 20 km de vélo et 5 km à pied. Et la XS, c'est pour les plus jeunes, où on a 300 mètres de natation, 10 km à pied et 10 km en vélo et 2 km 5 à pied. Donc ça sera les deux épreuves en championnat régional jeune et aussi avec des courses open pour les adultes, bien évident. Donc ça sera au mois d'avril. Et puis après, organiser, donc refaire le bike and run galette en janvier pour faire du lien avec les membres. Et puis tout au long de l'année, essayer de proposer aussi des événements. Pourquoi pas organiser un repas à la fin de l'année. J'aimerais bien qu'on se réunisse. On se réunit pour faire du sport, mais j'aime bien qu'on se réunisse aussi pour faire autre chose, pour parler d'autre chose aussi du sport. C'est aussi important. Moi, ce qui m'importe aussi, c'est de faire du lien entre les gens. On fait du sport ensemble. On fait du sport ensemble, on a la même passion du triathlon ou du sport enchaîné, mais c'est aussi de faire du lien, de se connaître davantage sur ce qu'on fait à côté du sport. C'est aussi important. C'est des bonnes valeurs, à mon sens.
William, sur le triathlon d'Angoulême, donc tu parlais des quais de la Charente-Angoulême, l'épreuve de natation, elle va se dérouler où?
Elle se déroule dans les quais. On part, vous savez, à la passerelle, péniche là.
Ouais.
Voilà, le site se situe là. On a vraiment un super site. La ville nous a bien remercié par rapport à ça. Et on remercie aussi la ville parce qu'ils nous ont donné quand même un bon coup de main logistique. Tout le monde a joué le jeu. Donc cette année, on y retourne. Et puis, on va améliorer. On avait des points à travailler, notamment le parcours vélo qui était assez délicat et assez.
Il se déroulait où le parcours vélo?
Un parcours vélo, on partait donc du parc à vélo était situé donc à côté de la péniche, hein, vous savez, sur l'espace vert, hein,
d'accord,
l'espace enherbé. Parcours vélo, on partait route de Vars.
Par le Gond-Pontouvre, c'est ça?
Ouais, par le Gond-Pontouvre, on allait route de Vars, et puis on repartait côté Nautilus à un moment donné. Avant de revenir par la route, c'est la rue de Bellevue, je crois, qui remonte par le haut de Saint-Yrieix, là-haut. Vous savez, au Garando.
Oui, il y a un bon petit casse-pattes là, par là-bas.
Ouais, voilà, il y a une bonne petite côte, donc c'est assez sélectif. Et puis, avant de revenir sur le boulevard de Bretagne et de redescendre dans le rond-point de Saint-Antoine, on avait une boucle de 10 km.
Ouais, quand même.
Qu'il fallait faire deux fois, de suite. Avec drafting autorisé. Donc là, on a le droit de rouler en peloton.
D'accord.
Donc l'année dernière, c'était une belle réussite. Moi, je suis content. C'était un beau projet, un beau challenge. On a eu 400-500 participants. Donc c'était bien. Puis il a fait beau, il a fait très beau. Bon, l'eau était froide. Elle était à 14 degrés, donc l'eau était un peu froide. On n'avait pas pu la chauffer. Hein. L'eau était un peu froide, mais bon, ça est passé. Personne s'est plaint. Et puis, il a fait beau. On a fait vraiment une belle épreuve, bien animée par les gens de l'époque. On a travaillé avec Amil Event, Thomas Mounier, qui fait de l'organisation qui aide les clubs à réaliser leur projet. Donc, on renouvelle cette année. On va encore travailler avec eux parce qu'ils nous aident bien par rapport à tout ce qui est logistique, tout ce qui est dossier par rapport à la préfecture et à la mairie. Donc, c'est des professionnels de l'organisation. Moi, je leur fais confiance. Ça s'est bien passé l'année dernière. Donc, cette année, on y retourne. Et ça déleste un petit peu les bénévoles qui sont en charge du dossier à monter, qui prennent énormément de temps.
Bien sûr.
Donc eux, ils ont l'habitude, ils vont beaucoup plus vite, et puis ça génère de l'emploi de leur côté. Donc moi, je suis très content, je suis très satisfait de ça.
On pourrait faire un tout petit peu de rétro-pédalage pour que tu nous narres par le menu la belle aventure de la JSA Triathlon, donc avec notamment Patrick Andry qu'on avait régulièrement dans nos émissions, donc qui a été à la base de la création de ce club. Qu'est-ce qui s'est passé donc pendant 32 ans?
Pendant tout ce temps, il s'est passé beaucoup de choses, effectivement. Donc c'est Patrick Andry qui a créé le club, qui s'appelait au début je l'ai pas sous les yeux.
C'était pas le SCA, il y avait pas.
Il y avait le SCA triathlon. Mm-hmm. C'est Patrick qui avait créé ce club, passionné de rugby et de triathlon.
Absolument.
Et puis pendant tout ce temps, il a réussi à fédérer les gens autour de lui pour faire progresser le club. Donc au début, ils étaient 2 et puis 5, 10, 15, 20. Et puis à un moment donné, ils ont organisé le triathlon d'Angoulême à la base au plan d'eau. Mm-hmm. Un vrai triathlon sur route qui à l'époque était label régional. Enfin, c'était vraiment une superbe épreuve. Où beaucoup de personnes venaient. Moi, je me rappelle, j'avais participé en 1997. C'était un Néo-Zélandais qui avait gagné. Enfin, c'était vraiment des courses incroyables. Et puis après, donc ça a continué. Et puis, il y a eu la naissance de l'école de triathlon. C'est lui qui a porté le projet école de triathlon avec un premier emploi. Hein. Je me rappelle, on avait eu un premier salarié. Et puis, puis les choses se sont éteintes un petit peu. Il y a eu le triathlon d'Angoulême aussi, je crois, c'était en 2013. On avait fait un triathlon en contre-la-montre par équipe. On n'a fait qu'une année parce que le parcours vélo était vraiment dangereux. Il y avait eu des chutes sur le parcours vélo. Et puis voilà.
Dédé, une dernière question peut-être?
Moi, j'ai beaucoup appris dans cette interview. Et moi, je voudrais rendre hommage, évidemment, puisqu'on arrive à la fin de cette année 2022, souhaiter longue vie à la JSA Triathlon. D'abord, effectivement, c'est vraiment une morale de ce qu'est le bénévolat. Et donc, moi, je souhaite longue vie à la JSA Triathlon. Voilà, c'était pas une question, mais c'était mes mots de conclusion pour cette fin d'année.
Moi, je vais juste redire un mot sur Clément, parce qu'on a Clément, on a parlé rapidement, mais j'ai pas parlé de ses performances cette année. Il avait comme objectif de performer sur le circuit Ironman 70.3. Le 70.3, c'est le demi Ironman. C'est 1,9 km de natation, 90 km de vélo et 20 km à pied. Donc cette année, c'est ce qu'il a fait, puisqu'il finit, il fait deux top 10 en fait. Il fait un top 10 au 70.3 à Saint-Georges aux États-Unis, et il double avec le championnat du monde à Ironman à Hawaï, qui n'était pas prévu au début d'année 2022. Il voulait se consacrer que 70.3, mais il s'est quand même qualifié sur un Ironman à Francfort en Allemagne et il a fait son premier Ironman championnat du monde à Hawaï. Donc vraiment, il y a en quelques années, il a explosé par rapport à ses performances. Il est vraiment devenu un élite mondial. Il a fait cinquième au championnat du monde ITU. Alors ITU, c'est labellisé en fait. C'est la FF3 mais de façon mondiale.
Mondiale, oui.
Mm-hmm. Non, c'est ITU. Bon, puis après, il a gagné à Aix-en-Provence, il a gagné à Royan, il a gagné à Jarama, il a toutes les courses qu'il fait, pratiquement, il les gagne. En tout cas, au niveau régional des Français. Et puis, donc, ses objectifs pour 2023, ben, c'est là, par contre, c'est de faire podium au championnat du monde Ironman et podium au championnat du monde 70.3. On lui souhaite. Donc, c'est aussi une très bonne saison 2023, d'autant plus que, ils ont comme projet de s'installer avec son amie Marjolaine Pierret, qui vient de La Réunion et qui, elle aussi, est sportive de haut niveau. Donc elle a gagné à Royan, elle est sixième au championnat du monde ITU et là elle vient de gagner le 70.3 au Bahreïn et elle vise l'année prochaine un top 5 au championnat du monde 70.3. Donc c'est deux jeunes là, sportifs de haut niveau qui sont dans le coin. On va faire en sorte, de les faire en sorte qu'ils restent au club pour ses valeurs. On peut pas trop les aider nous avec les moyens qu'on a. Mais on essaye de les conserver, de les protéger, de faire en sorte qu'ils restent au club. Et notamment, ils ont fait une belle intervention, effectivement, sur le campus, il n'y a pas très longtemps. Ils ont rencontré les élèves qui sont en STAPS pour leur parler un petit peu de ce que c'est le sport de haut niveau et, les problèmes qu'on peut rencontrer. Donc, bien évidemment, il faut être assidu aux entraînements et vraiment s'investir beaucoup physiquement. Mais il y a aussi tout le à côté. Et notamment, à un moment donné, c'est le côté financier qui est pas facile à gérer. Et sur des sports comme ça qui sont peu ou moins valorisés par rapport à d'autres sports qu'on peut connaître, comme le foot, par exemple, où des jeunes comme ça qui performent pourtant au niveau mondial ont du mal à trouver des sponsors. Alors, surtout en ce moment, parce qu'on est un peu en période de crise et les entreprises ont quand même du mal à faire du mécénat. Mais leurs problématiques sont là, c'est vraiment de trouver du sponsoring, du mécénat pour pouvoir vivre de leur passion pendant ces quelques années. Donc, ils ont fait une très belle intervention au campus.
Clément et Sébastien, ils ont des sponsors particuliers pour les aider parce que quand tu fais un voyage à l'autre bout de la planète, ça doit coûter un bras. Donc, est-ce qu'ils sont aidés par des sponsors?
Oui, c'est Sébastien, il a quelques sponsors personnels, mais Sébastien, il est plus vieux, il est dans la vie active, donc ça veut dire qu'il a des revenus fixes. Mm-hmm. Donc il peut financer quelques voyages et puis compléter avec ses sponsors. Clément, il est dans une catégorie d'âge où il sort des études, il est sportif de haut niveau et donc ses courses, elles sont financées effectivement par ses sponsors, les sponsors privés qu'il peut avoir et puis il faut qu'il se débrouille avec ce qu'il a, donc et notamment avec ses primes de course. Année, il a fait beaucoup de courses. Il a fait beaucoup de courses cette année, au risque à un moment donné de se blesser, parce que quand lui, il a peut-être fait une vingtaine de courses cette année.
Ah oui, quand même, c'est énorme.
Ça. Ouais, non, c'est beaucoup. Et puis dont deux Ironman. Il a fait 70.3, je crois, et deux Ironman. Mais il est obligé de les faire pour cumuler de l'argent. Donc, il a finalement une obligation de gain, une obligation de victoire pour gagner de l'argent, pour pouvoir faire ses déplacements. En plus de ces sponsors, donc eux c'est vraiment une problématique pour eux de trouver des sponsors et puis de pouvoir réaliser leur rêve.
Concrètement, tu parlais tout à l'heure d'une intervention dans les campus. Est-ce que il y a des passerelles que vous souhaiteriez établir avec des établissements scolaires pour la pratique du triathlon?
C'est toujours pareil, oui, c'est envisageable. On l'a eu fait. Notamment avec des collèges Angoulême, on avait commencé à faire un sport-études par rapport au triathlon, mais il faut quelqu'un pour s'en occuper. Donc il nous faudrait quelqu'un salarié au club, entraîneur attitré, qui puisse piloter ça. On ne peut pas s'engager avec un collège ou un lycée pour avoir une section triathlon et puis pas tenir nos engagements. Donc c'est, moi je suis pas contre, mais c'est comme du boulot à organiser. Donc, il faut absolument passer par un poste salarié.
Parmi les jeunes donc qui viennent s'inscrire, qui prennent les licences à la JSA, le cœur de cible, c'est quel âge? C'est 10-12 ans? C'est les 14-16? C'est quoi?
Ouais, c'est à partir de 12 ans. À partir de 12 ans, à partir du moment où ils savent nager, voilà. En général, le triathlon, il vient un peu plus tard parce que c'est quand même un sport composé, c'est un sport d'enchaînement. Donc, certains viennent du vélo, certains de la course à pied, puis d'autres de la natation. Donc, c'est varié. C'est un sport où on vient vers 12 ans, c'est pas mal.
Est-ce que vous avez des objectifs en termes de licenciés pour l'année 2023?
Les objectifs en termes de licenciés, on s'est pas fixé d'objectifs. Nous, je sais qu'on a une capacité d'accueil. Là, aujourd'hui, on a une centaine de licenciés. Quand je vois la fréquentation qu'il y a à la piscine, on est bien. Si on arrivait à 200 licenciés, bah il faudrait qu'on agrandisse la piscine. Il faudrait qu'on demande à agrandir la piscine, qu'on ait plus de créneaux.
Donc c'est quand même deux fois les effectifs. Donc 200 licenciés.
Non, mais c'est pour ça. L'objectif, c'est d'avoir effectivement une centaine de licenciés, maximum 150. Ça sera c'est un bel objectif. Et encore une fois, il faut la structure derrière pour pouvoir proposer des entraînements de qualité en termes de volume. Voilà, et proposer des choses. Donc il faut pas être trop gourmand par rapport à ça.
Le Covid n'a pas été impactant pour votre section?
Alors pour notre section, elle n'a pas été impactant. Il y a eu une petite baisse de licenciés, mais bon, qui était toute relative. Nous, elle nous a pas impacté parce qu'on n'avait pas d'emploi salarié, donc elle n'a pas affecté nos comptes. Sur les licences, on a fait une remise conséquente, je crois que c'était 20 ou 30% sur la licence.
Ouais, ça c'est bien, c'est un geste significatif.
Ah oui, mais nous, on est un club où on a fait des remises pour le Covid significatives. On a organisé des choses pour sortir les gens, justement. Il n'y avait pas de course. Je crois que c'est 2020 et toutes les courses étaient annulées. Donc, on a organisé quand même un aquathlon club et un triathlon club pour se redonner un petit goût à la compétition. Donc, ça avait du succès parce qu'à chaque fois, on était une petite vingtaine, une trentaine. Donc, c'était sympa. Donc, là, cette année, on n'a pas augmenté. Il y a l'inflation, on sait. Donc, nous, on veut pas augmenter le prix de la licence. On essaye de, il faut qu'on rentre dans nos frais, mais on n'est pas là pour spéculer non plus sur les tarifs de la licence.
Quel est le prix d'une licence annuelle, William?
Alors, nous, on a plusieurs formules. La licence compétition, elle est à 240 euros. Pour un adulte, et ça lui donne un droit à accès à la piscine, aux entraînements vélo et ainsi de suite, à la vie du club. Dans ces 240 euros, on en reverse 100 euros à la Ligue et à la Fédération française. Mm-hmm. Donc, il en reste un peu moins. Et puis ensuite, on a aussi des possibilités d'entraînement, de licence sans entraînement. C'est-à-dire qu'on peut prendre une licence au club, mais par contre, on n'aura pas la carte piscine, on vient pas aux entraînements club. Donc là, c'est un peu moins cher. Puis après, on a des licences enfants qui sont à 180 euros, je crois. Donc sur le site, tout est marqué. En fait, vous voyez, licence enfant, c'est 180 euros. Jeune, on peut aussi prendre des licences jeunes sans entraînement. Puis ainsi de suite. 237 euros pour un adulte, c'est un équivalent à 20 euros par mois. Donc c'est une salle de sport et vous avez deux entraînements, voire quatre entraînements de piscine maximum par semaine, une séance de course à pied et du vélo le week-end. Donc c'est pas cher.
Pour conclure, William, quelles sont les valeurs sur lesquelles tu fondes le club, l'esprit du club?
L'esprit du club, c'est des valeurs donc d'abord sportives. Hein, on est tous sportifs quand on est au club de triathlon. On aime ce sport-là parce que le triathlon, c'est un sport à part entière. Moi personnellement, je suis passionné de triathlon depuis bien longtemps. Donc les valeurs communes de sport, et puis de la bienveillance, et puis de l'entraide, et puis du savoir vivre ensemble, quoi, hein, tout simplement. Hein. Moi, ce que j'aime, c'est voir les gens qui vont aux entraînements. Et je vois que les entraînements, quand on voit la qualité des entraînements à la piscine, à chaque fois on est une trentaine à la piscine, c'est génial. La course à pied aussi, et puis les vélos. Donc on vit le sport ensemble et on partage des moments ensemble. Et aussi on partage des moments aussi en course. Où on se retrouve une dizaine de triathlètes à participer aux mêmes événements, c'est sympa, on s'encourage les uns les autres, et voilà, on passe des bons moments ensemble, c'est ça l'important.
Donc le maître mot, je pense, c'est le partage, hein, c'est ce qui revient le plus dans dans ta définition du club de la JSA. Et encore une fois, donc on va te remercier, William, d'avoir accepté notre invitation. Le temps passe très très vite avec toi, ça fait une heure déjà qu'on est ensemble et qu'on a. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel tu souhaiterais revenir ou sur lequel tu souhaiterais apporter des éléments?
Écoutez, merci encore une fois de l'invitation. Bon, je pense qu'on a quand même fait le tour. J'espère que j'aurais été assez clair. J'ai essayé d'aborder un petit peu tous les sujets. Bon, c'est pas évident. Mais en tout cas, merci encore une fois pour l'invitation. Et puis, voilà, écoutez, je vous dis à l'année prochaine. Et je vous dis surtout au triathlon d'Angoulême le 30 avril prochain. Voilà, on va essayer de faire une nouvelle belle fête avec le soleil.
Voilà, on va se donner rendez-vous donc début mai pour, enfin, un petit peu avant pour présenter le
30 avril, ouais. Le dimanche 30 avril, la veille du 1er mai. Le 1er mai, c'est un lundi.
D'accord.
Le 30 avril, venez faire un tour sur les quais de l'Houmeau. Là-bas, vous verrez, il y a de la buvette, il y a tout ce qu'il faut pour se ravitailler. Puis vous allez assister à vraiment un très beau spectacle. Donc, on essaye de faire un truc sympa qui marque Angoulême.
Du sport dans la convivialité. William, merci beaucoup. Donc, on te souhaite par avance le meilleur pour l'année qui vient. Donc, bonne chance à la JSA Triathlon. Et on se retrouve donc dans le courant du printemps de l'année prochaine pour qu'on puisse présenter la compétition. Voilà. Merci beaucoup, William.
Merci à vous.
Bonne fin de soirée. À très bientôt.